Donc aujourd'hui, on va parler des versets troublants. Okay? Et pour entrer dans le sujet, je pense qu'il serait bien de lire dans 2 Pierre, chapitre 3, et les versets 15 à 18. Donc on est dans 2 Pierre, c'est après l'Épître aux Hébreux, 2 Pierre, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, on va lire les versets 15 à 18. Je me trouve dans 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Et c'est le verset 15 à 18. Croyez, donc c'est une commande là, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Donc, ça veut dire que Pierre est en train de dire la même chose que Paul. Que Dieu, il est patient, il nous aime, et c'est à travers ce grand amour de Dieu que nous avons eu notre salut. OK? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Hein? Ça, c'est des versets troublants. Des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et puis il dit Amen. Okay? Donc, il y a quelques semaines, j'ai déjà prêché sur le sujet de la fidélité de Dieu, les promesses et la fidélité de Dieu. Et on a proposé que oui, ben voilà, ça c'est les affirmations, sont nettes, claires, etc. Mais il y a des versets qui sont troublants et ce serait bien de voir ces versets-là pour aider à comprendre pour que ce qui est bien clair soit bien, bien clair. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va, prendre pendant quelques semaines ces versets qui inquiètent, qu'on ne comprend pas trop bien. On va essayer d'éclaircir ces versets-là. Mais dans ce passage de 2 Pierre, il dit croyez. Croyez-le. Comme j'ai dit, c'est une commande. Il dit, croyez que la patience, et ce mot patience, c'est ce grande patience, c'est la tolérance, c'est la longanimité, je ne peux même pas dire le mot, hein, longanimité, qui veut dire que Dieu nous aime à un tel point. Il nous supporte, parce que nous, on est des êtres humains. Ça ne va pas changer avant qu'on meure. Et donc Dieu, il est tellement patient avec nous. Et cette patience à travers l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde, à tel point qu'il a envoyé son fils, Emmanuel, pour mourir, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et donc, nous devons croire, nous devons nous attacher à cette vérité. Au contraire, ne doutez pas. Ne doutez pas. Thomas a douté. Il dit, oh, mais je ne vais pas croire avant que je vois. Il dictée quand même des apôtres. Ils doutaient. Il ne faut pas douter. Et Jésus a soulagé cette pointe troublante dans la vie de Thomas parce qu'il avait déjà vu Jésus mort. Mais il n'avait pas vu Jésus vivant. Et donc, il était troublé par ce fait. Et le Seigneur a soulagé ou réclamé ou, enfin, réglé ce problème-là. Donc, quand le verset dit que Dieu est patient, c'est une grande patience, c'est le mot l'endurance. Hein? Donc, il dit qu'il faut le croire. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer que Dieu est comme un homme, qui est méchant envers ses enfants, qui veut se venger sur ses enfants. Il n'est pas changeant, comme aujourd'hui il vous aime et demain il ne vous aime pas. Non, Dieu ne change pas. Il a envoyé Jésus pour mourir. Pas une nouvelle fois à chaque fois que vous péchez, mais une seule fois pour tous les péchés du monde, depuis Adam jusqu'aux dernières personnes. C'est fait. Et c'est comme cela que nous pouvons être sauvés. Pierre dit que Paul a beaucoup écrit dans ses lettres sur cette grande patience du Seigneur qui manifeste son amour envers un monde perdu. Donc, comme on a lu ça, Pierre reconnaît qu'il y a des points difficiles, difficiles à comprendre. Et nous sommes d'accord. Parfois, il faut vraiment gratter la tête et dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Hein? On n'a pas toujours la réponse. Mais une chose, on peut être certain, c'est que Dieu, il n'a pas dit de choses contradictoires. Donc nous, on a parfois à réfléchir, à arriver à comprendre ce que Dieu a dit. Et parfois, on n'arrive pas. Peut-être qu'il faut demander au pasteur ou à un frère ou une soeur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas être toujours tout seul dans cette chose. Ah, les versets troublants. Il faut chercher à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le texte qu'on vient de lire, si vous n'arrivez pas à comprendre ces versets troublants et vous laissez ces versets vous troubler, ça va vous égarer. Ça va vous mettre sur une mauvaise piste. Et ça ne sera pas le bonheur. Hein? Donc, il faut qu'on arrive à comprendre ces versets. Afin, comme Pierre dit, de croître, de grandir dans la grâce. La grâce est notre salut. La grâce du Seigneur, c'est notre salut. Qu'on grandit dans notre compréhension, il dit là, la connaissance du Seigneur. Okay? Donc, c'est vrai qu'il y a des textes difficiles. Mais il ne faut pas abandonner parce que voilà, c'est difficile à comprendre, mais à insister, à prier, à arriver juste à ce que vous arrivez à comprendre ces choses qui sont difficiles. Donc aujourd'hui, c'est plutôt introduction parce que j'avais plein d'autres choses à dire, mais j'ai dit, oh, ça va prendre trop de temps. Donc, il faut faire un petit peu à la fois. Parce que, premièrement, je ne veux pas que le message soit trop long, mais aussi parce que vous n'allez pas retenir si je dis trop de choses à la fois. Okay? Donc, aujourd'hui, c'est un peu la question, comment traiter ces versets troublants? Okay? Donc, j'ai 4 points, et dans le 4e point, je pense que c'est ça, j'ai 2 exemples. Okay? Premier point, plantez vos pieds sur les vérités solides. Hein, comme j'ai fait la prédication auparavant, les promesses de Dieu et la fidélité de Dieu. Okay? Donc, je vous dis juste certains points de base sans essayer même de les prouver. Dieu est vrai. Dieu n'est pas menteur. Dieu est vrai et Dieu dit vrai. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Et donc, de là, on peut savoir que Dieu ne se contredit pas. On ne peut pas avoir 2 vérités qui se contredisent. Et donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a des versets troublants, parce qu'ils semblent se contredire. Oh, mais comment ça se peut, ce verset-là dit ceci, et ce verset-là dit cela, et ça semble être en contradiction. Voilà. On revient déjà, première chose, sur les vérités que nous connaissons, Dieu est vrai. OK?
Et de là, il dit vrai,
il ne se contredit pas, et quand il s'est exprimé dans la parole de Dieu, il a dit toujours la vérité. Le second point, c'est qu'il faut vous cramponner, vraiment vous attacher sur l'Évangile. L'Évangile ne va pas changer. Christ est mort pour les péchés que vous êtes, que je suis. Et vous n'allez jamais être non-pécheur, pas dans cette vie, pas pendant cette vie. Vous êtes pécheur. Vous avez toujours votre nature pécheresse. Et si vous ne marchez pas avec l'Esprit, vous allez marcher comme un être humain et vous allez faire des bêtises. Et ce n'est pas une nouvelle chose que je vous dis, parce que c'est Paul qui l'a dit dans Galates chapitre 5. OK? Donc, on va nous cramponner à l'Évangile. Jésus sauve les pécheurs. Jésus ne sauve pas les propres justes. Les propres justes ont besoin de se repentir. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas leur justice qui va les sauver. Qu'est-ce qui va les sauver? Jésus sur la croix, qui a payé pour tous leurs péchés. La Bible nous dit qu'il n'y a point de juste. Si vous pensez que vous êtes juste, vous croyez à un mensonge, parce que vous n'êtes pas juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Sauf Jésus, bien sûr, parce que lui, c'est Dieu. Donc, puisque c'est pour les pécheurs que Christ est mort, ben, il est mort pour nous. Il est mort pour nous, les pécheurs. Par exemple, donc je vais donner les versets, mais on ne va pas les chercher. Je vais simplement citer le premier point et on va chercher le quatrième. Dans 1 Jean 2, 2, nous lisons « Jésus-Christ est la victime propitiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Le monde entier, ça veut dire que vos péchés étaient compris quand Christ est mort. Et tous vos péchés, et même les péchés des non-croyants. Mais quand le non-croyant a compris que Christ est mort pour lui, il devient croyant, et donc il devient un des nôtres. OK? 1 Pierre chapitre 3, verset 18, la première partie. Christ a souffert combien de fois? Combien de fois Christ a souffert? Une seule fois pour les péchés. Donc, si vous avez 50 péchés, ou 50 000 péchés, ou 500 000 péchés, Christ est mort une seule fois. Il ne va pas revenir mourir encore une autre fois pour 501e péché. OK? Une seule fois. 1 Jean chapitre 2, verset 12, la seconde moitié du verset dit, « Vos péchés, par le chrétien, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Dieu vous a pardonné vos péchés, non pas parce que vous êtes des bonnes personnes, parce que vous n'êtes pas, vous êtes des pécheurs. Vous êtes tous pécheurs. Mais pour Jésus, qui est mort pour nos péchés, Dieu pardonne vos péchés à cause de son nom. À cause de son nom. À lui soit la gloire. Ce n'est pas parce que nous, on est à l'église tous les dimanches ou quelque chose. C'est parce que Christ est mort pour nos péchés. Une fois pour tout, c'est fini. On croit, on ne croit pas. On croit, on est sauvé. On ne croit pas, ben, on n'est pas sauvé. Je voudrais lire dans 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1. On va lire les versets 15 et 16. Et après, je vais retourner quelques versets auparavant. 1 Timothée, chapitre 1, versets 15 et 16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc, ça veut dire que vous devez croire ce qu'il va vous dire. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est pour cela que Jésus est venu. Et qu'est-ce que Paul dit par la suite? Il dit, « Dont je suis le premier. » Pour lui, il dit, « Je suis le plus grand des pécheurs. » Donc, vous ne pouvez pas prendre cette place-là. Parce que Paul a déjà pris cette place-là. Verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Ah, c'est beaucoup ça. Il était le plus grand des pécheurs et il a reçu miséricorde. Et vous aussi, vous avez reçu miséricorde. On va voir ça dans un second. Pourquoi? Afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, si on croit en Jésus-Christ, ce n'est pas pour voilà, dire oh, je suis devenu une bonne personne, mais c'est pour dire que Dieu vous a donné après. Donc, en même temps, mais d'ailleurs, il vous pardonne de vos péchés et il vous accorde la vie éternelle. Okay? Et regardez dans le verset 13. Il dit, moi qui a reçu donc, le salut et cette grande miséricorde, moi, il dit, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'est-à-dire lui a reçu la miséricorde de Dieu. Il dit, non, c'est pas normal. C'est impossible. Et pourtant, la longanimité de Dieu est tellement grande. L'amour de Dieu, si grand qu'on a chanté tout à l'heure. Vous voyez? Paul, il est tellement reconnaissant à Dieu pour son salut qu'il s'est donné de sa propre vie, comme il a écrit plus tard dans Romains chapitre 12, verset 1, pour servir Dieu. Ça ne va pas l'aider à être sauvé. Mais Dieu va utiliser sa vie pour être utile pour Dieu. Ok, troisième point. Il faut rejeter l'idée que vous pouvez vous sauver vous-même. Parce que quelques-uns de ces versets troublants donnent l'idée que vous pouvez vous sauver vous-même. Et non. Évidemment, ces versets-là ne devraient pas être compris dans ce sens-là. Ça devrait dire quelque chose d'autre, parce que nous avons des enseignements nets et clairs dans la parole, comme on va voir dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez tourner là, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela, donc il parle du verset 1 à 7, il parle du salut, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Okay? Donc, Dieu ne veut pas, Dieu ne permet pas que quelqu'un vole sa gloire en disant, moi, j'étais suffisamment bien que Dieu a fait 99% et moi, je suis venu pour combler son acte de sacrifice sur la croix parce que ça n'a pas suffi ce que Jésus a fait. Non, ça ne marche pas. Soit Jésus a tout fait, soit Jésus n'a rien fait. Mais ce n'est pas entre les deux, et ce n'est pas entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Et puis le quatrième point, il faut prendre à cœur que Dieu vous a sauvé afin d'être utile, comme on l'a vu avec Paul. Dieu veut que vous soyez utile. Et là, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans le verset 10, il dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, » donc ça sous-entend donc le salut et tout ça, « pour de bonnes œuvres. » Nous avons été sauvés, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Donc, dans l'objectif de faire des bonnes œuvres, des œuvres bienfaisantes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là, ça entre dans la question du Saint-Esprit, ça entre dans la question des dons de Dieu, des talents que Dieu vous a accordés. Eh bien, Dieu, il a un plan pour votre vie. Et il veut que vous le fassiez. C'est préparé d'avance que vous fassiez quelque chose. Mais ça ne va pas vous aider à être sauvé. Mais ça, c'est votre utilité. Donc, vous lisez en Jean à propos de « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments ». Eh bien, le sarment qui ne fait pas la volonté de Dieu, il est inutile. Parce que Dieu l'a créé en Jésus-Christ avec un objectif, un plan pour cette vie, et on ne fait pas ce plan. J'ai un autre plan, je ne veux pas le plan de Dieu. Bah, ça ne vaut pas, non, si je ne veux pas ce que Dieu veut. Vous voyez? Il y a une utilité à votre vie. Donc, le cinquième point, ah, il y a les cinq points. Le cinquième point, assurez-vous de bien comprendre le verset. Là, on commence vraiment à voir la chose, ok? Assurez-vous de bien comprendre le verset. Parfois, on pense comprendre le verset. Et en fait, on n'a pas compris le verset. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler les uns avec les autres pour partager, discuter les mardis soirs. Ça, c'est très bien pour voir les choses ensemble, n'est-ce pas? Donc, il y a un mot que nous chérissons beaucoup, c'est le mot sauver. Je suis sauvé. Mais je vais vous donner... Oh, j'ai oublié de faire les photocopies. Excusez-moi, je le ferai pour la prochaine fois. Donc, je vais vous donner les définitions de ce mot sauvé. Parce que pour nous, on est sauvé. Hein? Mais ce mot sauvé, c'est extrêmement riche en signification. Il y a plein d'applications de ce mot. Et c'est ça que je veux voir tout de suite. C'est ce mot. Donc, grec, c'est le sozo. Et donc, plein d'applications. Et il y a toujours dans le mot sozo l'idée du danger. Alors, les dangers sont divers. Si vous quittez la salle là, vous avez le danger d'être écrasé par une voiture. OK? Mais espérons que ça ne va pas se passer comme ça. Hein? OK? Donc, il y a toujours les dangers dans le sous-entendu, ce mot. Donc, nous, en Jésus-Christ, nous sommes sauvés du danger de la condamnation éternelle. Et c'est comme ça qu'on pense presque toujours de ce mot sauvé. OK? Alors, je vais vous donner les autres applications pour que vous ayez une meilleure compréhension. Donc, ce mot est utilisé dans les domaines de la santé, dans le domaine de la condamnation et dans le domaine de la conservation. OK? Pour la conservation, on a les significations. J'ai pris ça du dictionnaire, donc ce n'est pas moi qui ai inventé ces choses-là. Conservation, ne pas perdre ou conserver. Donc, vous voulez avoir, vous avez des haricots verts, je n'ai pas. Vous voulez les conserver pour l'année prochaine, vous les mettez dans une boîte, vous les fermez, hein? Voilà, vous allez conserver ces haricots verts, ok? Vous allez les garder ou sauver, voilà, ok? Après, vous avez l'idée de condamnation, donc vous avez un ennemi, un guerrier, vous êtes en guerre et puis voilà, l'ennemi est juste là, ou vous avez quelqu'un qui a fait un crime. Donc, le mot dans le sens de condamnation, c'est laisser vivre ou ne pas tuer ou épargner. Bon, ça arrive dans les guerres qu'on épargne l'ennemi. Et ça arrive aussi dans les cours de tribunal et tout ça, que on arrive à diminuer les peines. Hein? On va épargner de cette peine-là pour faire une autre peine, etc., condamnation. Et puis, c'est beaucoup dans cette idée de santé. On a plein d'idées, donc c'est pour ça que je vais photocopier ça pour la prochaine fois. On a la signification conserver, sain et sauf. Voilà, c'est pour le dire. Conserver, sain et sauf. Mettre à l'abri du danger. Tirer du danger. Se tirer de l'affaire. Être délivré, continuer à vivre, être ou rester en vie, prospérer, secourir, et bien sûr, sauver et délivrer. Ça, c'est, voilà, la globalité de signification de ce mot sozo. OK? Donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, on arrive dans ce chapitre concernant la tribulation, Matthieu chapitre 24, et le verset 13, qui est un verset troublant pour beaucoup de monde, n'est-ce pas? Eh bien, on lit, donc je vais prendre encore le contexte et tout ça, juste pour donner l'exemple, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et on pense tout de suite sauver, donc de la condamnation éternelle. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la condamnation éternelle. Mais on regarde parmi les définitions de ce mot. Et l'idée, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin donc, de la grande tribulation sera sauvé dans le sens mise à l'abri. Donc, dans quelques versets plus tard, il dit que les anges vont prendre et mettre à l'abri les croyants. Ou ça peut être délivré, donc le Seigneur va délivrer ces croyants-là de ce moment-là. Ou même qu'il sera sauvé dans le sens continuer à vivre donc, dans la suite du temps, dans le millénaire. Okay? Donc, il ne faut pas vous arrêter avec le mot « sauvé » veut dire toujours « sauvé de la condamnation éternelle ». Parce que là, ce n'est pas vrai. Il y a plein d'autres significations de ce mot. Et dans ce verset, dans ce contexte, il ne veut pas dire « sauvé de la condamnation éternelle ». Ça veut dire « celui qui a pu survivre jusqu'au bout des 7 années de la tribulation ». Les croyants qui ont pu arriver jusqu'au bout seront délivrés ou mis à l'abri pour entrer dans le millénium que Christ va régner sur la terre pour 1000 ans. Il y a un autre verset pour terminer, c'est 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 et verset 16. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 16. Donc, mon point ici, c'est qu'il faut bien comprendre le verset, ok? C'est ça. Si on ne comprend pas le mot, on ne peut pas comprendre le verset. 1 Timothée chapitre 4 et verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ok? Donc, premièrement, dans le grec, il ne dit pas « tu sauveras deux fois ». Il dit « tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent ». Okay? Donc, ce n'est pas deux fois le même mot, c'est une seule fois ce mot-là dans le grec. Paul dit ces choses à Timothée. Si vous lisez tout le chapitre 4, il y a plein de pièges. L'Esprit dit exprès « dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, etc. » Et puis plus tard, il va dire des gens qui racontent n'importe quoi, des fables, n'importe quoi. Il dit, si les chrétiens se laissent entraîner par ces choses-là, eh ben, ils vont dévier de la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être perdus pour l'éternité, mais ils ne vont pas être les bons chrétiens s'ils suivent les mauvaises pistes. Donc, dans ce verset, donc, face aux difficultés et face aux ennemis qui sont annoncés, donc vous pouvez lire tout le chapitre, Timothée doit persévérer dans l'enseignement et donc l'enseignement de la vérité et il doit persévérer dans l'exemple de vie, le bon exemple de vie qu'il met devant les frères et sœurs. Donc, une partie du problème, c'est qu'il est jeune. Et il y en a, donc, on vous lisait, il y en a qui pensent que Timothée, il est trop jeune pour être le pasteur. Ils n'ont pas confiance en lui. Et donc, Paul dit de persévérer dans ces choses-là. Il dit, car en agissant ainsi, en persévérant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc, ce sauver-là, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent, veut dire tu vas te tirer de ces dangers. Des dangers qui étaient annoncés auparavant dans le chapitre. Tu vas secourir toi-même et l'Église. Si tu ne vis plus une bonne vie chrétienne, ou si toi tu laisses envahir l'Église par ces mauvaises doctrines, eh bien, ça va détruire l'Église et toi aussi. Mais si tu persévères dans l'enseignement de la vérité et tu t'occupes de ton exemple de vie, tu vas secourir, tu vas faire prospérer toi-même et l'Église. Tu vas conserver ton ministère et tu vas conserver l'intégrité de l'Église. Donc, il faut comprendre ce mot, l'utilisation de ce mot sauvé dans ce contexte, pas comme la délivrance de la condamnation éternelle, comme si on veut avoir les pasteurs non-croyants qui sont des mauvaises personnes, etc., etc. Non, on ne veut pas ça. Timothée est un bon croyant, Jésus-Christ, il était équipier avec, coéquipier avec Paul déjà dans plusieurs missions. Ce n'est pas un nouveau converti, mais il est quand même jeune. Et donc ça cause quelques problèmes, il y a plein de monde, comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui enseignent plein de choses. Et donc, il faut rester dans la vérité, et il ne faut pas, dans sa propre vie, se laisser aller faire des bêtises, etc. Ça va tout le monde? Ok?